du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce numéro 672 du Coq à l'âne avec les coqualiens et coqualiennes. On va d'ailleurs commencer avec la coqualienne puisque elle est là avec nous, c'est Laetitia Allemand, bonjour.
Bonjour Thierry.
Fait toujours plaisir de se retrouver.
Toujours un plaisir pour moi
voilà,
aussi.
Voilà, coqualienne, on n'en a qu'une pour l'instant, on va essayer d'en trouver d'autres, mais bon. Par contre des coqualiens, alors là ça se bouscule, hein. Nous avons Patrick Faure qui est là.
Bonjour Thierry.
Alors parle bien près de ton micro.
Ah, je suis dans le micro.
D'accord. Et puis nous avons aussi Pierre Luroni.
Coucou.
Bon, tout va bien?
Très bien.
Voilà.
Merci.
Notre invité, c'est Rémi Audoux. Salut Rémi.
Salut.
On ne le présente plus? Si, quand non. Même. Il est un peu maire de Lettré. Il est aussi un petit peu conseiller départemental, canton de Tallard.
Tout
voilà.
À fait.
Et alors, ça tombe bien. Tu sois là, dis donc. Ça tombe bien parce que qu'est-ce que j'ai vu? On parle des départementales. Alors, bah, la question. En lice pour les prochaines élections départementales. Et là, tu me dis...
Ce sera annoncé très prochainement. Avec ma binôme, parce que je n'annoncerai rien sans ma binôme.
Ouais, ça, c'était sûr. Je m'en doutais, de toute façon. Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi je vais le taquiner un petit peu, Rémi, parce que je suis resté comme deux ronds de flanc il y a quelques semaines. C'était le 6 février, en voyant l'article de nos confrères du Dauphiné qui titrait « Élections départementales, deux points, le sujet tabou ». Point d'exclamation. Je dis, mais quoi, le sujet tabou, ils ont fumé ou quoi? Alors, il y avait une carte et j'apprenais que sur les 30 conseillers à qui on avait posé la question, vous y repartez ou pas? Il y en avait un qui dit non, moi j'y vais pas, c'est Gérard Fromme, donc ça on le savait depuis longtemps. Il y en avait trois qui disaient nous sommes partants, donc Valérie Rossi et son binôme, donc Joël Bonafou pour le canton de Change et Florent Armand pour le canton de Laragne. Et il y en avait 26 qui tortillaient du cul. Bah ouais, ils savaient pas trop. Ils étaient là, ils tâtaient. Où nous sortait le lieu commun. Le contexte n'est pas propice. En fait, ils savent tous qu'ils y vont, mais ils veulent pas le dire. En gros, c'est ça, Rémi, ou pas? Non, mais sérieux.
Moi, ce que j'avais répondu c'est... au journaliste, qui avait pas fait le détail des 26, et c'est normal, c'est que c'était probable qu'on soit candidat.
Ah, quand même. Donc,
après,
il ne l'a pas dit.
On a quand même le droit, en tant que candidat, de choisir le moment où on va l'annoncer, comment on va l'annoncer, et surtout à qui on va l'annoncer.
Bah oui, mais enfin...
Et toi, t'as cru que c'était toi, en plus.
Mais non, pas du tout. Non, mais je me dis quand même, on est politique, on voit l'avenir. Donc, je pense que tout politique à 6 mois d'une élection cantonale ou départementale, pardon, c'est très bien s'il va y retourner ou pas. Enfin, je sais pas. C'est pas 6 mois avant, on se dit, oh, je sais pas, je vais attendre. C'est pas 3 jours avant qu'on se dit, ah bah oui, j'y vais.
C'est pas 3 jours avant.
Ouais.
Mais le moment de l'annonce, c'est quand même un moment qui est important parce que c'est là qu'on doit annoncer pas seulement je suis candidat, ça c'est pas très intéressant. En fait.
Le programme.
Mais pourquoi? Avant le programme, pourquoi? Quelle est la raison qui fait qu'on se présente?
Alors, quelle serait la raison pour laquelle tu te représenterais?
Le fait d'être utile. Le fait de pouvoir servir son territoire et les habitants.
D'accord.
C'est ça qui serait le leitmotiv de la candidature.
Comme tu as été utile pendant ces quelques années, tu seras certainement utile dans 6 mois.
Tu travailles dans la continuité quand même, Rémi.
C'est possible, c'est même plus que possible, c'est probable.
C'est quelque chose de régulier quand même.
On va parler maintenant de Nicolas Sarkozy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Nicolas Sarkozy dans le Coq à l'âne. Fut une année, fut une époque, on en parlait tous les vendredis, hein, et tu t'en souviens,
oui,
Pierre-Louis,
oui,
hein, et tu t'en souviens.
Ah ouais, c'était tout le temps.
C'était tout le temps. En fait, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? On a appris que l'ancien président, donc, âgé de 66 ans, a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Information de l'Express. Alors, selon le magazine, l'ancien chef d'État a reçu cette première injection au mois de janvier dernier à l'hôpital militaire de Percy, situé à Clamart, donc région parisienne. Lui qui vient de fêter ses 66 ans. Alors, pour quelle raison a-t-il pu être vacciné? Contacté l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a fait aucun commentaire. Il faut savoir qu'actuellement, ce sont les moins de 75 ans, hein, qui sont
les plus
de 75 ans qui sont concernés par la vaccination, à l'exception des personnes atteintes de pathologies à risque. Et c'est donc là ma question, est-ce que par hasard, notre ancien président n'aurait pas une pathologie à risque? C'est la question. Est-ce que ça vous
a probable, choqué? C'est probable, c'est possible.
Est-ce que ça vous a choqué, en fait, le fait de voir qu'un ancien président, parce qu'il est président, ou ancien président aurait été vacciné avant tout le monde.
Si c'est le cas, ce serait choquant. Mais effectivement, on ne sait pas. Est-ce qu'il a une comorbidité ? Si c'est le cas, c'est normal qu'il ait été vacciné en amont. Si c'est pas le cas et s'il a été vacciné avant les autres juste parce qu'il est ancien président, là c'est grave parce que ça veut dire que sa vie aurait plus d'importance que notre personne de 66 ans.
Mais à mon avis, il est probable qu'il ait ou possible qu'il ait une pathologie. Ah bah moi je pense, oui, je vois pas sinon vraiment l'intérêt en plus en étant, s'il était en bonne forme, de se faire vacciner avant tout le monde.
Il faut savoir qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été vaccinés à l'hôpital de Neuilly, quelques passe-droits qui ont eu lieu là-bas. En fait, ils ont fait passer les membres du conseil d'administration qui n'étaient pas prioritaires et ils l'ont validé et ils se sont pas cachés. Donc ça prouve qu'il y a quand même quelques passe-droits. Mais des passe-droits chez les politiques, j'allais dire, c'est un grand classique, Rémi, non ?
Chez certains politiques, oui. Chez certains politiques, oui, bah, bien sûr.
Qu'ils n'arrivent pas à être utiles ailleurs.
Mais non,
on va pas se mentir. Bien sûr qu'il y a des politiques qui s'octroient des passe-droits. Ça existe, évidemment.
Non, mais vous avez trompé, monsieur Maslis. C'était Paul Bismuth qui s'est fait seringuer.
On dit à 75 ans et plein de comorbidités. D'ailleurs, on n'en entend plus
peut-être
parler.
Peut-être qu'il veut aider le corps médical. Ouais. Veut se rendre volontaire.
En tout cas. Il a pas menti. C'est ça, c'était sa grande phrase. Tenez, écoutez-le.
J'ai sans doute beaucoup de défauts et je ne prétends pas tout avoir bien fait. Mais une chose, je vais vous dire, je n'ai pas menti.
Je vais vous dire.
Cette fois-ci.
Bon, par contre, en parlant de passe-droit, ça aussi, ça m'avait un petit peu interpellé. Ce sont les députés, dernièrement, tu vas me donner ton avis là-dessus, le plafond annuel de la dotation matérielle des députés qui permet aux élus de couvrir une partie de leurs frais de mandat, comme le téléphone, le taxi, l'affranchissement des lettres. Paris, ils ont eu beaucoup de courriers à faire avec le confinement. Va passer de 18 950 euros à 21 700 euros, une décision qui a évidemment provoqué des remous, et notamment au sein même du collège des questeurs. Est-ce qu'on peut parler d'un timing inapproprié d'augmenter en ce moment le salaire, parce que c'est une augmentation de salaire, ni plus ni moins, des députés, Rémi ?
C'est au-delà d'une question seulement de timing, c'est profondément scandaleux. C'est profondément scandaleux.
Cette somme-là, elle est de combien, tu dis ? Mais c'est par quoi ? Par mois ? Par an ?
Non, mais je sais pas si c'est... 21 000, c'est ça ?
Non, mais t'es sûr que c'est
non,
que
non,
par an ?
Non, c'est par mois.
C'est par mois. C'est là où...
Non, parce que j'étais en train de regarder le chiffre.
Oui, c'est par mois.
C'est pour ça que je te posais la question.
Oui, tu as bien fait. Non, parce que oui. Par an, ça serait pas cher payé pour être député, effectivement. Donc là, on passe.
Il y a le personnel dedans, j'imagine.
Oui, c'est ça, on entretient le doute.
Est-ce que c'est la fameuse enveloppe qu'ils ont pour qu'ils peuvent dépenser à discrétion sans avoir à justifier, etc.
Maintenant, ils doivent justifier.
Ouais, d'accord.
Mais ils l'ont augmenté, ils l'ont passé grosso modo, une augmentation de 2000 euros. Quoi.
C'est beaucoup quand même, moi je trouve.
Pour des histoires
d'inflation.
Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, la poste, le timbre, tout ça coûte cher.
C'est un plan de relance déguisé pour la poste.
Je veux dire, peut-être qu'il faudrait que les députés réfléchissent à leur communication, parce que les mails, ça marche très bien. Hein, nous, on reçoit des mails, des députés et des sénateurs, sur notre boîte mail de la mairie, c'est très bien. On peut mettre des thèmes sur les mails, ça sert pas beaucoup. Mais les courriers, généralement, ils finissent au tri. Au tri, c'est bien, c'est quand ils finissent pas à la poubelle.
C'est le tri sélectif.
On a entendu quelques députés dire qu'effectivement, ils avaient eu... un surplus de courrier à faire, et là je me suis dit, mais ils envoient leurs lettres à qui ? Parce que moi, une lettre de député, j'en ai rarement reçu. Joël m'a jamais écrit. Perso, Joël m'a jamais écrit.
Et tu fais des textos, non ?
Voilà. Donc je pense que, comme tu dis,
on en reçoit beaucoup.
C'est vrai ?
Beaucoup.
De députés ?
De députés, de sénateurs, oui.
D'accord, ok. Mais les élus locaux ?
Les élus locaux.
Ouais. Et tu en as reçu beaucoup plus pendant le confinement ?
Non.
Bon, ça va alors. On va passer à un autre sujet alors. Allez, un autre sujet qui occupe les médias depuis plusieurs semaines, c'est l'inceste et le viol. On a de plus en plus de dénonciations d'inceste de personnages publics, des enfants qui se retournent contre leurs parents, grands-parents, oncles, tantes, beaux-pères et j'en passe. C'est un peu la question gênante du jour. Doit-on livrer en pâture sur les réseaux sociaux et sur les sites d'info les présumés coupables d'inceste ? Parce qu'on, mine de rien, on est quand même face à un problème qui est super grave. Aujourd'hui, tous ces personnages sont jugés par le tribunal donc médiatique, comme on dit. Sont-ils coupables? Tout est parti en fait de l'affaire Duhamel là dernièrement, hein, donc vous l'avez suivi. Il y a eu aussi Dominique Boutonnat, le patron du cinéma français.
Des Boutonnat alors.
Richard Berry, c'est très bon ça. Mais c'est très bon.
C'est pas mal. Ouais.
Ah ouais, c'est
je
pas
vous
mal.
Demande de vous arrêter.
C'est pas mal. Richard Berry, donc là dernièrement, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui a été donc épinglé, lui
et
aussi.
Là, Trump qui a été qui est passé aussi.
Qui?
Tronc.
Gérard Tronc.
Ah oui, oui, ça c'est Gérard Tronc. Oui,
il a été condamné.
Enfin, c'est Tronc qui est
là,
passé.
Il a été condamné, donc c'est voilà. Alors visiblement, Richard Berry est coupable, hein, puisque France 3 a déprogrammé un téléfilm dont il était à l'affiche. Dans un communiqué de presse, la chaîne s'en est défendue, hein, expliquant seulement qu'elle avait voulu protéger les deux parties de la polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, de tous ces personnages qui sont livrés en pâture? On ne sait pas s'ils sont coupables, on ne sait pas s'ils sont innocents. Mais on les balance en pâture. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je. Franchement, moi, ça m'a interpellé. Je voudrais avoir votre avis sur la question.
C'est plus qu'interpellant parce que, comme tu le dis, en France, on a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence, qui non seulement dans sa définition, on va dire commune, c'est le fait de respecter le fait avant que la personne ait été jugée, que le jugement ait été rendu, de savoir si elle est coupable ou non, c'est une chose. Et en plus, en droit français, ça implique que c'est dans le système judiciaire français, ça implique que c'est à l'accusation de faire la charge de la preuve. Et le fait, du coup, de mettre les gens comme ça, de les jeter, comme tu dis, en pâture dans les médias, ça fait que la personne qui éventuellement n'est pas coupable se retrouve, elle, à devoir prouver qu'elle ne l'est pas. Et donc ça inverse quelque chose qui, de notre système judiciaire.
C'est ce qui s'appelle le tribunal médiatique où les accusés doivent soit donc faire une tribune, soit venir à la télé et expliquer que ben non, ils l'ont pas fait, hein. C'est pas nous, c'est pas moi. Mais c'est compliqué quand même. Rémi, ton avis là-dessus?
Difficulté là-dessus. Effectivement, quelqu'un qui serait accusé à tort de viol, de pédophilie, d'inceste, ça peut ruiner sa vie. Et ça a été le cas notamment avec. On a des exemples d'enseignants qui s'étaient suicidés et après coup, on avait appris qu'ils étaient innocents. Les enfants s'étaient rétractés. Il y a cet aspect-là, effectivement, qui est choquant. Il y a quand même un autre aspect, c'est que. Pour des actes de viol, et encore plus, je pense, pour des actes d'inceste, sur un viol qui se commet sur 10 viols qui se commettent en France, il y aura à peu près une condamnation. D'une part, parce que la victime n'ose pas porter plainte. Parce qu'elle n'a pas suffisamment de preuves, et effectivement, et c'est normal, la charge de la preuve est à l'accusation, c'est tout à fait normal, il ne faut surtout pas modifier ce point-là du droit. Mais c'est dur de prouver un viol. Deux personnes ont eu un rapport sexuel, ça on peut le prouver.
Oui, oui.
Mais
oui.
La personne va dire oui, mais elle était consentante.
Mais après, c'est parole contre parole.
25 ans après.
Oui, après c'est parole contre parole.
Oui,
oui, oui.
C'est ça, pourquoi 25 ans après. Dans l'inceste, c'est encore plus renforcé parce que c'est un membre de votre famille, par définition. Et du coup, on a tendance soit à vouloir, entre guillemets, comme on dit, laver son linge en famille, ne pas vouloir heurter une personne de la famille qui a pu nous faire mal. Et d'autre part, il y a cet aspect de pas vouloir afficher sa vie familiale et même des actes terribles comme l'inceste qui ont pu se produire au sein de la vie familiale. Le fait qu'il y ait de la parole qui soit libérée, ça peut avoir un effet. Alors ça a des aspects négatifs, clairement, comme on l'a dit. Ça peut mettre des vies innocentes complètement en l'air parce qu'elles auraient été dénoncées à tort. Ça peut avoir aussi un aspect positif qui est que ça peut libérer la parole comme on a eu au moment du mouvement MeToo. Dans MeToo, on a pu avoir ce sentiment-là de se dire c'est quand même choquant des gens qui sont jetés en pâture avant même d'avoir été jugés. Oui, mais notamment pour Harvey Weinstein, ça a permis à d'autres femmes qui avaient subi les mêmes violences, qui n'osaient pas parler de peur d'avoir leur carrière ruinée, de là pouvoir s'exprimer.
Le but, ce n'est pas de ne pas en parler, hein. Moi, je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ce serait bien de pouvoir en parler quand la personne est est déclarée coupable. Mais parce Eh oui, non, mais,
oui, mais
c'est ça le vrai, c'est ça le vrai problème.
Il n'y a qu'une seule condamnation. Il n'y a pas assez de condamnations.
Et puis on se demande aussi quel est l'intérêt des victimes à médiatiser comme ça les affaires. Enfin, ça a quelque chose d'un peu.
C'est
paradoxal quand même aussi,
ouais,
parce qu'on a des institutions judiciaires qui fonctionnent parfaitement bien. Si quelqu'un effectivement.
Pas pour tout le monde. Non, mais pas pour tout le monde. Je sais
que c'est très compliqué pour les victimes et que voilà, il y a effectivement cette difficulté. Parfois, on se heurte à la fois au système. Mais quand même, il existe des moyens de porter plainte ou de faire valoir ses droits sans pour autant médiatiser une affaire, notamment quand on est un peu connu et que ça implique des gens connus aussi. Donc,
Je vous donne ce chiffre, 10 viols, une condamnation.
Oui.
9 viols vont rester impunis. 9 viols vont rester impunis sur 10.
Mais il y en a aussi qui seront impunis parce que la personne n'a pas porté plainte aussi.
Oui, pourquoi elle porte pas plainte?
Mais en tant que femme, il y a viol et viol quand même. Moi, quand j'entends que Patrick Poivre d'Arvor, dont on sait que c'est effectivement, quand on a travaillé dans les médias, un grand séducteur qui peut avoir parfois des attitudes un peu vraiment, ce qu'on peut dire, dragueur un peu lourd. Voilà. Mais c'est, pour moi, c'est quand même pas Guy Georges non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui, qu'une fille qui va se faire violer dans un parking par quelqu'un qui va lui mettre un couteau sous la gorge. Qu'il ait pu avoir des attitudes un peu limites, mais dont souvent, en plus, ses conquêtes étaient largement consentante parce que à l'époque c'était quelqu'un de très connu qui avait beaucoup de pouvoir, etc. Pour moi, c'est quand même pas la même chose. Je trouve qu'il y a une sorte d'amalgame qui est fait aujourd'hui.
C'est bien que tu parles de Patrick Poivre d'Arvor et de sa réputation. Je vous ai isolé un petit son de Patrick Poivre d'Arvor qui recevait il y a quelques années Béatrice Dalle. Béatrice Dalle qui était dans un film de Claude Lelouch et qui jouait dans ce film le rôle d'une kleptomane. Et il se trouve que quelques semaines avant, elle s'était fait choper dans un magasin à Paris en train de shipper des bijoux. Donc écoutez cette confrontation intéressante entre Patrick Poivre d'Arvor et Béatrice Dalle.
Et d'une manière générale, dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane. C'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ, ou c'est pendant que vous tourniez que tout d'un coup vous avez eu un...
Non, c'est des choses qu'on s'est parlé avec Claude Lelouch. Il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du
est-ce
pot, dites franchement ce que vous
regrettez d'avoir volé ses bijoux.
D'avoir violé Mike Tyson? Non, pas du tout, c'était très agréable.
D'avoir volé ses bijoux.
Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole.
Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne l'avez pas demandé.
Oui, mais on l'avait demandé avant.
Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça...
Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite?
Pas de la provocation, mais c'est une chose qui vous a touché. Je vous demandais si
je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch, monsieur Poivre d'Arvor.
Ah oui, là j'avais pas eu.
Ah, ça c'était un grand moment de la télévision.
Ça avait fait le buzz à l'époque, je me souviens, on en avait beaucoup parlé. Mais...
Grand moment à la télévision où elle lui avait balancé tes lettres là. Hein,
mais grand séducteur, mais comme il y en a beaucoup parmi les politiques ou parmi les hommes de médias ou parmi les acteurs ou parmi les chanteurs. Ou... Et après, c'est vrai que la frontière, c'est la fameuse question du consentement qui est posée, mais pour moi il y a quand même une différence. Avec cette attitude de séducteur, de dragueur, qui peut effectivement déranger ou choquer, etc. Et quelque chose de vraiment très physique, une forme de violence physique. Pour moi, il faut quand même faire la part des choses. C'est pas la même chose.
Ouais, le consentement, pour certains, ça peut être aussi une obligation pour d'autres. Parce que tu peux être consentante ou consentant, parce qu'il n'y a pas que chez les femmes qu'il y a des victimes, hein, j'imagine. Parce que tu as un intérêt.
À mon idée, il y a plus en avoir dans un sens que dans l'autre.
Oui,
mais
c'est possible. Oui. C'est possible, mais bon, faut pas l'oublier quand même, parce que c'est voilà, pas se cacher derrière
son petit doigt.
C'est ça. Mais voilà, tu peux te retrouver à être consentante ou consentant parce qu'il y a un intérêt, et c'est pas juste non plus.
Oui, parce que une relation hiérarchique de pouvoir, etc.
C'est ça, un intérêt, c'est-à-dire que c'est dur à dire parce que on peut pas dire qu'une victime elle s'est laissée faire parce qu'elle avait un intérêt, parce que t'as envie de dire elle a choisi. Mais parfois t'as pas le choix, c'est-à-dire que dans une entreprise.
Là, dans une entreprise, on parle de la promotion canapé. Là.
C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est, oui. Pour Poivre d'Arvor, j'ai entendu ce matin, je sais pas sur quel média, que donc la dame qui a porté plainte, expliquait qu'elle avait eu un entretien téléphonique la veille et qui lui a tenu des propos qui, selon moi, moi j'aurais été à la place de cette dame, je ne serais pas allé au rendez-vous le lendemain. Or, elle a accepté d'aller au rendez-vous. Alors je me dis, tiens, alors, effectivement, elle est consentante parce qu'elle va au rendez-vous et là, il lui fait boire un verre d'alcool, il la viole apparemment.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une position objective quand tu entends ce qui s'est passé, parce que tu te dis, mais si elle y est allée, c'est qu'elle était consentante. Donc certains vont dire, elle avait qu'à pas y aller. Et d'autres qui pourront dire, oui, mais elle y est allée parce qu'elle avait un intérêt, mais un intérêt parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle devait faire la promo de je ne sais quoi, etc. C'est compliqué quand même.
Il faut quand même rappeler un principe. Un homme ou une femme, à tout moment, a le droit de dire non. Ils peuvent être nus tous les deux dans le lit. À tout moment, non. C'est non.
Et moi, ça m'est arrivé. Hein.
Et si on continue, c'est un viol. Voilà. Là, la femme, je connais pas bien l'histoire, j'ai juste vu dans, vite fait un article disant que Patrick Poirot d'Arvor avait été accusé de viol. S'il lui avait demandé si c'était à la base un entretien professionnel en vue d'une embauche, qu'elle soit venue sachant que lui avait pu être, assistant avait pu la draguer par téléphone.
Déplacé, on va dire.
Ah oui, déplacé, hyper déplacé.
Un boulot, pour certaines personnes, c'est nécessaire. Donc je comprends qu'elle soit allée au rendez-vous, même si elle n'avait pas du tout l'intention d'avoir une relation intime avec Patrick Poirot d'Arvor.
En tout cas, ça fait des victimes.
Oui.
En tout cas, ça fait des victimes, des deux côtés. Des deux côtés, et quelquefois, c'est
mais il y a un problème là-dessus, assez... quand même, qui est l'éducation. On a l'éducation nationale, au niveau apprentissage de l'éducation sexuelle et du droit, enfin de l'image au corps, c'est catastrophique.
My God.
Vraiment un système où...
Ça, ça c'est un peu notre
pas.
Problème. Ça.
Là, au collège, j'ai une amie qui travaille dans un collège qui me disait que suite à une intervention, ce qu'avait retenu l'élève du planning familial, et pourtant le planning familial fait un travail remarquable...
Un sexologue qui était venu présenter...
Pas un sexologue, mais un intervenant du planning familial. Ce qu'avait retenu la fille, c'est que si elle prenait la pilule, elle ne peut pas avoir de maladie sexuellement transmissible.
C'est bien. Alors, elle avait bien suivi ou elle avait dû rater un passage.
Elle avait dû rater un passage. Mais quand même, c'est inquiétant.
Je vais vous faire écouter et puis on passera à un autre sujet. Mais c'est intéressant. C'est un petit édito de Patrick Cohen qu'il a fait cette semaine justement sur ce problème. Écoutez.
La présomption d'innocence, principe posé dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 9. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Mais Mirabeau, Lafayette et les autres rédacteurs de la déclaration n'avait pas anticipé les médias de masse et les réseaux sociaux où tout se passe, beaucoup se passe à l'inverse de nos principes de droit. Devant la justice, c'est à l'accusation de démontrer la réalité de l'infraction et de rapporter les preuves de la culpabilité. Et la défense n'a pas à prouver l'innocence de l'accusé. Sur les plateaux télé, c'est souvent le contraire. Le suspect ou ses avocats sont sommés de prouver qu'il n'a rien fait. Les plaignants, quand il y a plainte, deviennent automatiquement des victimes et les accusés sont regardés comme des coupables.
Mais des victimes, il y en a et il faut les entendre,
les
Patrick.
Les entendre, les reconnaître et y porter attention en trouvant le juste et difficile, très difficile équilibre entre la présomption d'innocence et la reconnaissance des victimes. Et en n'oubliant pas qu'il y a aussi des victimes du système médiatique et judiciaire, et presque toujours pour des accusations de crimes sexuels où la matérialité des faits est la plus difficile à établir. Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse, accusé pendant plusieurs semaines en 2003 à coups de témoignages bidons diffusés devant des millions de téléspectateurs, de torture, de sévices sexuels et de meurtre d'enfants, ou trop désastre judiciaire où on a cru des enfants, parce que c'était des enfants. Et plus récemment, l'acteur Philippe Cobert, accusé publiquement d'avoir violé et découpé des prostituées dans sa cuisine, des délires rarement sanctionnés. L'accusatrice de Cobert, qui doit être jugée pour dénonciation calomnieuse, n'a jamais répondu aux convocations de la justice. Mais si vous tapez Cobert et viol dans un moteur de recherche, la première vidéo qui arrive est celle de ces accusations sordides.
Conclusion.
La conclusion, je l'emprunte à un journaliste du Monde. C'est une phrase qui m'avait marqué, elle est de Pierre Georges, en plein déballage de l'affaire Baudis. Si cette affaire est vraie, avait-il écrit, si cette affaire est vraie, c'est très grave. Si elle n'existe pas, ça l'est encore plus.
Ouais, c'est bien résumé.
Oui.
C'est bien résumé.
Tout est dit.
Je trouvais que voilà, il y avait une approche assez intéressante. Il y a des victimes des deux côtés et quelquefois c'est terrible
aussi.
Et
Dominique Baudis ne s'en était jamais vraiment remis et il est décédé d'un cancer quelques années après. Voilà.
On peut penser d'ailleurs que il y avait un lien de cause à effet.
Complètement.
Comme on dit,
moi, je pense en tout cas.
Ouais. Non, c'était.
Et souvent, tu te retrouves à être accusé. On te dit souvent, il y a pas de fumée sans feu.
Et oui, c'est ça qui est terrible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Rémi, au niveau des réseaux sociaux.
Exactement, mais enfin, ça arrive. Vous croyez que les hommes politiques, on est épargnés, qu'il y a
des rumeurs sur des choses
les plus extravagantes possibles et imaginables.
Il y a même des rumeurs comme quoi tu cours de temps en temps le matin autour de chez toi. Il paraît. C'est quand même terrible.
Mais ça, c'est un
Mais il n'y a pas de preuves, donc ça va. Surtout pas sur les réseaux sociaux, donc c'est bon. Mais
plus tu es exposé parce que ta fonction ou ta mission dans la vie professionnelle ou autre est importante, plus tu risques de te retrouver, si un jour tu as un souci, montrer du doigt. Mais bon, ça reste pas la justice, ce que disent les gens en général. C'est pas ça la justice. Et il faut pas
Mais c'est ce qui mène l'opinion.
Mais c'est ce qui exactement. Oui, t'as raison, Patrick.
Là où je voulais en venir, c'est que faut pas faire l'amalgame quand on dit on est le peuple juge ou on est jugé par le peuple, etc. On n'est pas jugé par le peuple. Enfin, si quelque part, puisque ce sont des représentants du peuple quelque part qui font qu'à un moment donné il y a des juges qui vont décider qu'on est coupable ou pas. Mais c'est pas le peuple qui a le dernier mot. Parce que si on fait confiance en sa justice, on se dit, eh bien, les juges, ils ne vont pas prêter attention à tout ce qui est dit, tout ce qui est colporté, etc. Ils vont vraiment analyser tout ça. Là où c'est embêtant, c'est, je profite de ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça peut faire peur. C'est quand tu dis, il y a 9 viols sur 10 qui sont impunis. Je sais pas d'où tu as ces sources, mais ça, effectivement, ça, c'est un message qui peut être pour moi aussi, risqué, aussi grave, j'oserais dire, que ce dont on est en train de parler maintenant, parce que c'est ce qui fait que les gens n'ont pas confiance en la justice et qui leur donne envie de s'exprimer encore plus, parce que finalement, si tu en arrives à dire il faut le punir, il faut le punir, il faut le punir, et justement parce que c'est quelqu'un d'important, c'est que t'as pas confiance à la justice et que tu te dis plus tu es important.
Je te suis.
Plus tu es grand, plus tu es important. Enfin, grand pas par la taille, parce qu'on va penser que je parle de moi, mais je plaisante. Plus tu es important, plus tu as des chances d'échapper à la justice parce que tu as des réseaux, etc.
Je suis pas sûr que ce soit même ça, parce que parfois, toutes ces femmes qui ne portent pas plainte ou qui n'osent pas porter plainte.
Je pense à elles, justement.
Mais c'est souvent des filles dans des milieux sociaux où justement elles ont peur de. C'est un viol de leur entourage, elles ont peur, elles n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer correctement, etc. Donc ça touche aussi des gens qui sont pas du tout médiatiques ou pas du tout importants, je pense.
Mais alors c'est impuni parce que ça... impuni parce que ça n'est pas dénoncé.
Oui. Ah, mais entre autres.
Mais tu vois dans la manière dont tu l'as formulé, j'avais pas compris ça moi.
Non, j'ai pas dit une accusation de viol. Une accusation de viol sur 10.
Tu vois comme quoi.
Entre ce qui n'est pas dénoncé et après ce qui ne peut pas être prouvé.
Mais ça c'est. Enfin, on s'émeut de plein de mots de notre société et moi je ramène toujours parce que je trouve qu'il faut vraiment relativiser par rapport à ça, qu'une femme sur 10 est violentée en France. Oui. C'est terrible, c'est pire que tout le reste, je pense. Une femme sur 10 en France est violentée.
Et il y en a combien qui meurent sous les coups de leur conjoint?
J'ai envie de dire, heureusement qu'elles ne meurent pas toutes, parce que sinon, ça en ferait quand même beaucoup.
Mais il y en a beaucoup.
Ce serait énorme. Mais entre mourir d'un coup de couteau parce que ton mari il pète un câble et être violentée toute ta vie et ne pas oser en parler, des deux drames, toute une vie à être battue ou violentée ou menacée ou par ton bonhomme ou par ta femme, parce que les deux existent, je pense que c'est terrible.
On pourrait faire une émission que là-dessus. On va sauter du coq à l'âne.
Juste une dernière chose. C'est vrai que quand on nous affirme des choses, c'est souvent l'intelligence, ça serait de dire est-ce que je suis sûr de l'information que je reçois, quoi.
Ouais.
Et un peu comme le journaliste, aller chercher la source, quoi.
C'est comme ça
que les rumeurs circulent et savoir le bien fondé d'une affirmation comme ça, quoi.